Chapitre 2. Les fondements de la stratégie. Nous aimerions que le débat contradictoire soit une partie d'échecs. Les orateurs développeraient leurs pensées comme les joueurs déplacent leurs pions, soigneusement, après avoir envisagé toutes les options. Les arguments se répondraient rationnellement, tels des pièces en mouvement sur des cases identiques en proportion. Mais il n'en est rien. Car les échecs ne sont que le jeu de la guerre, réglé et codifié. Le débat, en revanche, est une véritable bataille, organique, mouvante, désordonnée. C'est l'humain qui se trouve au centre de l'échiquier. Aucune loi ne s'y applique, du moins aucune qui ne puisse être transgressée. Dans ce bouillonnement rhétorique, il est impossible de prédire ce qui va se passer. Seule l'incertitude y est constante. Pour autant, cela ne signifie pas que nous soyons condamnés à errer dans la brume, improvisant nos réparties au gré des circonstances et de l'inspiration. Il est possible de suivre une stratégie qui se décline le long de quelques grandes lignes de conduite, 18 pour être précis. Celles-ci se répartissent en 4 grands thèmes, l'attaque, la défense, le débordement et les fondamentaux. C'est par ces derniers que nous allons commencer. 1. Aiguiller la conduite du débat. Bien souvent, nous avons de la joute oratoire une approche linéaire. Les tours de parole se répondent directement. Chaque argument énoncé vient en réfutation de ce que l'adversaire a tout juste avancé. Le débat devient une série de ripostes ininterrompues, pareil à une partie de tennis où il faut absolument être capable de renvoyer la balle sous peine de perdre le point. Au terme d'un tel échange, les interlocuteurs ressortent généralement frustrés. Ils avaient préparé de bons arguments, mais n'ont pas pu les placer. Que peuvent-ils faire cependant, sinon le déplorer ? Le débat ne s'est simplement pas dirigé là où il l'espérait. Cette situation découle d'une conception erronée du débat contradictoire. Il n'est pas une confrontation rationnelle, où chaque argument de l'adversaire devrait être soit réfuté, soit concédé, jusqu'à ce que toute la matière ait été épuisée. Au contraire, rien ne contraint l'oratrice ou l'orateur à répondre à ce qui vient d'être dit. N'oublions pas que les auditeurs sont, en grande partie, captifs de l'instant. Lorsque nous reprenons la parole, quelques phrases suffisent, une poignée de secondes, pour que l'intervention précédente commence déjà à se nimber de flou. Pour peu que notre propos donne l'impression d'en prendre la suite de manière vaguement cohérente, l'auditoire nous suivra où nous désirons le mener, quand bien même nous n'aurons, en réalité, répliqué que très partiellement, sinon même artificiellement, au trait que l'interlocuteur venait de nous lancer. Il s'agit d'une remarque cruciale. Elle doit nous amener à modifier radicalement notre façon d'envisager le débat. La première question que nous devons nous poser, quand nous nous apprêtons à prendre la parole, n'est pas « comment répondre à ce qui vient d'être dit ?» mais plutôt « faut-il répondre à ce qui vient d'être dit ?» Bien sûr, si l'argument de notre adversaire fragilise ostensiblement notre position, nous n'aurons guère le choix, il faudra répliquer au plus vite. En revanche, si nous estimons que son intervention était accessoire, maladroite ou confuse, ne perdons pas de temps à la réfuter. Elle ne nous menaçait pas, laissons-la filer et profitons-en pour développer notre propre ligne argumentative. Les mêmes recommandations s'appliquent d'ailleurs si nous prenons conscience que la discussion s'est progressivement déplacée vers un endroit de la controverse qui nous met en difficulté. Plutôt que de nous débattre dans ces eaux tumultueuses où nous ne prendrons probablement jamais l'ascendant, ne perdons pas de temps. Mettons à profit notre prochaine intervention pour réorienter le débat plutôt que riposter à notre adversaire. Imaginons par exemple que, lors d'une discussion animée, nous en venions à défendre les mérites de la chasse. Notre interlocuteur est un végétarien revendiqué. À grand renfort d'anecdotes marquantes et d'images saisissantes, il nous explique qu'il s'agit d'une pratique cruelle, indigne de nos sociétés civilisées. Nous pourrions lui répondre pied à pied. La mort fait partie de la nature, les animaux se chassent déjà entre eux, l'homme n'est qu'un prédateur parmi les autres, et de nombreuses pratiques sont infiniment plus barbares, à commencer par celles ayant cours dans les abattoirs. Mais quelle erreur ce serait! Tant que les auditeurs auront présent à l'esprit la vision d'animaux ensanglantés, nous débattrons en terrain miné. Dès que possible, détournons donc la conversation pour évoquer la préservation du patrimoine rural, défendre les traditions et railler la déconnexion des citadins vivant dans leur bulle de loisirs aseptisée. Dans une confrontation contradictoire, choisir le cadrage des échanges, c'est faire un premier pas vers la victoire. En pratique, si nous avons besoin de réorienter la conduite du débat, le langage nous offre de nombreuses options. Tout ce qu'il nous faut, c'est parvenir à articuler une transition qui présente l'apparence de la cohérence. Nous commençons donc par répliquer laconiquement à l'un des points soulevés par l'interlocuteur, n'importe lequel. Une ou deux phrases suffisent. Elles ont pour seul objectif de nous protéger contre une accusation de dérobade. Puis, nous enchaînons avec une formule telle que « Mais j'aimerais que l'on revienne sur un aspect important de la question » ou « Il me semble que nous avons laissé de côté un point crucial ». Ces tournures reviennent à dire, en réalité, « J'aimerais changer de sujet, si vous le voulez bien ». Mais, dans le flot du débat, elles sembleront merveilleusement naturelles. Nous n'avons plus ensuite qu'à avancer l'argument de notre choix. Mieux encore, imaginons que l'intervention de notre interlocuteur ait été assommante ou incompréhensible. Les auditeurs, nous en sommes convaincus, ont décroché. Dans ce cas, ne nous embarrassons même pas de faire semblant de répondre. Lorsque nous reprenons la parole, après avoir laissé notre contradicteur s'embourber longuement dans son propre propos, contentons-nous de commencer ainsi ? Bon, tout cela est passionnant, mais je pense qu'on est loin de l'essentiel. Si notre diagnostic était correct, l'auditoire se rangera immédiatement de notre côté. Nous aurons gagné tout à la fois sa sympathie et son attention, et aurons le champ libre pour développer notre argumentation. Voilà donc la première leçon de stratégie. Lorsque nous nous apprêtons à prendre la parole, posons-nous cette question simple. Qu'avons-nous à dire de plus important à cet instant précis ? Parfois, nous opterons pour un mouvement défensif. Nous objecterons aux arguments de l'interlocuteur parce qu'il nous mettait en danger. Parfois, nous passerons à l'offensive. Nous ignorerons en grande partie ce qui aura été dit pour faire progresser notre propre ligne. Et parfois, nous utiliserons le débordement. Nous nous appuierons sur un élément faible du discours adverse, non pour le réfuter, mais pour mettre son auteur en difficulté. Nous verrons par la suite comment déployer efficacement chacune de ces options. Pour lors, retenons cette idée générale, l'art du débat n'est pas celui de l'attente. Nous ne pouvons pas rester passifs dans le brouillard, nous contentant d'espérer que l'occasion se présente de faire valoir nos meilleurs arguments. C'est à nous qu'il revient de créer les conditions pour porter le fer dans la plaie de l'adversaire. 2. Dominer le terrain de l'image. Le débat ne se contente pas de mettre en jeu des arguments. Il engage également l'image des oratrices et des orateurs. Si nous parvenons à nous attirer la bienveillance et la confiance des auditeurs, nous avons de grandes chances d'emporter la victoire. À la différence des autres situations rhétoriques, toutefois, la joute oratoire présente une nature dichotomique. Elles mettent en scène un choc entre deux personnalités. Voilà qui change tout. Car nous devons désormais réfléchir à la manière dont notre éthos va interférer avec celui de notre interlocuteur. Imaginons un débatteur tempétueux. Il assène haut et fort ses arguments, coupe la parole, fait de grands gestes, s'exclame, fulmine, bref, c'est un matamor. En face de lui, son adversaire est talentueux, certes, mais moins singulier. Par comparaison, il paraît même effacé, discret, presque insipide. Sauf à triompher brillamment sur le plan des arguments, pour cet orateur palichon, l'affrontement est déjà mal engagé. Imaginons maintenant que notre fier à bras soit confronté à un autre interlocuteur, un individu déterminé mais serein, impassible et implacable, capable de décocher ses traits tout en flegme et en retenue. En regard de ce calme olympien, l'éthos flamboyant de son adversaire se modifie soudain. Il paraît maintenant bravache, agressif et crâneur, non plus un farouche gladiateur, mais un vulgaire fanfaron. Cet exemple nous montre que, dans un débat contradictoire, il nous faut parvenir à anticiper l'image que, par contraste, notre contradicteur nous amène à renvoyer, et parvenir, idéalement, à nous y adapter. L'adversaire est particulièrement sympathique, veillons à ne pas l'agresser, nous passerions pour une brute. Il est un peu terne, accentuons notre enthousiasme pour le faire paraître apathique. Il nous prend de haut, montrons que nous ne sommes pas son élève. Il est hésitant, au contraire, faisons-lui la leçon. C'est ici qu'il faut tout particulièrement se méfier du brouillard. Si nous ne prenons pas le temps de réfléchir à la manière dont notre éthos se reflète dans celui qui nous fait face, nous risquons de donner à voir une image fâcheuse. Ce serait une pente dangereuse. Pour peu que notre adversaire soit expérimenté, il saurait l'exploiter. Une dernière remarque, enfin, pour souligner l'effet délétère d'une certaine émotion sur notre éthos, la colère. Inévitablement, il arrivera qu'elle nous envahisse au fil d'une confrontation. Certains contradicteurs nous feront sortir de nos gonds, mais nous devrons parvenir à la contrôler. En laissant notre colère s'exprimer, nous commettons un impair. Nous paraissons impuissants et à court d'arguments. Aux yeux des auditeurs, c'est un aveu de faiblesse. La plupart du temps, en perdant notre sang-froid, nous perdrons aussi le débat. 3. Contrecarrer les émotions. Comme toute situation rhétorique, le débat contradictoire ne manquera pas de soulever des émotions dans l'auditoire. De l'intérêt si le débat est vif, de l'ennui s'il est amorphe, de la délectation si une répartie mutine est portée, de l'agacement si l'un des orateurs ne cesse d'être coupé. En tant qu'oratrices ou orateurs, nous devons avoir conscience de telles réactions. Elles détermineront en partie les impressions qui persisteront à l'issue de la discussion. En revanche, rien ne nous oblige à mobiliser consciemment les affects des auditeurs lorsque nous débattons. Nous l'avons vu, les techniques d'invocation émotionnelle sont délicates à utiliser. Elles demandent du temps, du soin et de la précision pour être déployées efficacement. Dans une confrontation où nous devons réagir en une fraction de seconde et pouvons être interrompus à chaque instant, elles n'en sont que plus périlleuses encore. Si nous préférons nous épargner de telles difficultés, il n'y a aucun mal à se concentrer sur le terrain du logos et triompher à la seule force de nos arguments. La situation change du tout au tout, cependant, dès lors que notre adversaire décide avec succès d'investir la dimension affective. En quelques phrases, il parvient à tisser une description redoutablement touchante. Ou bien il nous frappe de toute son indignation, espérant rallier les auditeurs par contagion. Pire encore, il provoque les rires en nous attaquant par l'humour ou l'ironie. Impossible alors de rester sans réagir. consentir à notre adversaire l'utilisation exclusive des émotions, lui laisser le monopole du cœur, ce serait accepter de se battre à armes inégales. Comme si nous nous reposions sur notre seule infanterie pendant que l'ennemi déploie son aviation. Nous finirions pilonnés. Il va donc falloir se défendre. Pour cela, trois options s'offrent à nous: répliquer, dénoncer ou dévoiler. Répliquer aux affects, cela revient tout simplement à les mobiliser à notre tour. Notre interlocuteur est parvenu à émouvoir les auditeurs, qu'à cela ne tienne, nous ferons de même, voire nous le battrons à son propre jeu. Imaginons par exemple que nous soyons en train de débattre de la peine de mort. Dans une grande tirade pathétique, notre adversaire a convoqué la souffrance d'une mère privée de son enfant par un assassin et qui espère justice. Évidemment, lui répondrons-nous, cette situation est insoutenable. Mais nous rappellerons aussi que les tribunaux sont toujours faillibles, parfois partiaux. Et nous évoquerons le cas de ce jeune homme innocent qui a attendu des années dans le couloir de la mort jusqu'à ce qu'un matin, au petit jour, on vienne le chercher pour lui sangler la tête sur le billot et lui trancher le cou. Est-ce vraiment là l'idée que l'on se fait de la justice dans une démocratie ? Dénoncer les affects, cela signifie les déconstruire. Par notre argumentation, nous nous employons à montrer que les émotions mobilisées étaient illégitimes. Nous répondons au pathos par le logos. Pour reprendre l'exemple précédent, nous aurions pu objecter à notre adversaire que, bien entendu, nous comprenons la souffrance de cette mère. Mais lorsqu'il s'agit de fonder des décisions politiques, elle devient mauvaise conseillère. Car aucune condamnation ne pourra jamais expier le meurtre d'un enfant. Faudra-t-il aussi rétablir la torture pour que le supplice de l'assassin se rapproche un peu plus de son crime ? La douleur des victimes, aussi tragique qu'elle soit, n'est donc pas une raison valable pour penser la justice pénale. Seuls le sont les intérêts et les valeurs de la société dans son ensemble. Dévoiler les affects, cela consiste à révéler la tactique de notre adversaire afin de la fustiger comme démagogique. Nous concédons, au fond, ne pas être capables de donner la réplique. Mais dans le même temps, nous cherchons à dévitaliser les émotions suscitées, les vider de leur efficacité en les dénonçant comme artificielles et stéréotypées. Imaginons que notre interlocuteur vienne de nous réserver le pire traitement qui soit. D'un sarcasme narquois, à nos dépens, il a mis les rieurs de son côté. L'idéal, bien sûr, serait de pouvoir répliquer, rendre trait pour trait, et montrer à ce mufle qu'au jeu de la répartie, nous le paierons en sa monnaie. Hélas, de répartie, nous n'en avons point. Rien ne nous vient. Faute de mieux, nous nous contentons de dévoiler la manœuvre. « Bravo, monsieur, vous êtes très drôle, vous me faites moi-même beaucoup rire. Mais je vous rappelle que le sujet qui nous occupe est sérieux, et ça n'est pas en faisant le pitre que vous réglerez quoi que ce soit. » Le procédé sera-t-il fructueux ? Probablement pas. Mais mieux vaut cela que de rester coi.